L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème, la parabole du Samaritain. Et nous avons toujours pour faire cette étude, Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui venez de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse.
Merci pour cette grâce que tu nous fais, que Dieu te bénisse encore mille fois et qu'il déverse son intelligence, sa sagesse sur toi afin de pouvoir nous aider à mieux comprendre ses richesses.
Amen.
Avant d'aller plus loin, je voudrais t'inviter à baisser la tête dans la prière pour que Dieu puisse être avec nous pendant ces 30 minutes. Je t'en prie.
Prions. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce temps. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais la vie se trouve auprès de toi. Nous nous recommandons entre tes mains, sois avec nous. Sème ta parole dans nos cœurs. Bénis-nous, Seigneur, pendant ces 30 minutes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. La parabole du Samaritain. L'émission précédente, nous étions en train de, bien sûr, nous sommes toujours en train de parler sur Jéricho et Jérusalem. Là, nous sommes en train de faire une petite étude sur ceux qui sont dans Jéricho. Et nous avons commencé à introduire sur l'aveugle Bartimée qui a été guéri à Jéricho. Qu'est-ce que tu peux nous dire encore aujourd'hui sur Jéricho, frère?
Il a eu la grâce, l'aveugle Bartimée, parce qu'il s'est trouvant déjà à Jéricho, il a eu la grâce de voir là à Jéricho un homme particulier passer. Parce qu'il y a eu des hommes qui sont passés à Jéricho, dans cette ville qui est placé sur le plan géographique comme la plus basse de toutes les villes. Mais ce jour-là, c'était particulier dans la vie de cet homme Bartimée, Marc chapitre 10, pour ceux qui veulent se retrouver directement. On est au verset 46, juste au verset 53. Là, on parle de Bartimée. Eh bien là, cet aveugle a eu la grâce d'apprendre que Jésus passait, parce qu'en fait, il ne pouvait pas voir. En fait, parlant de Jéricho, un peu en reculant en arrière, nous savons déjà que Jéricho, c'est une ville qui nous présente l'aspect de ce monde où il y a aussi des aveugles. Pas des aveugles physiques comme Bartimée, mais des aveugles spirituels à cause de leur désobéissance, à cause de leur ignorance, à cause de leur relâchement, à cause de leur péché. Et curieusement, même les hommes des dieux qui ont rétrogradé, peuvent être classés aussi parmi les aveugles. C'est ce qui est un peu triste, mais c'est comme ça. Et nous pouvons le voir dans certains textes. On a vu Jésus-Christ faire des reproches à des anciens d'Israël, à des pharisiens qui connaissaient la loi, qui connaissaient la parole, mais il les appelait aveugles. On prend par exemple ce long chapitre où Christ n'a fait que réprimander. On est dans Matthieu 23. Réprimander, je peux dire, corriger les pharisiens. Et il est allé plus loin en les traitant d'être des aveugles. Je vais lire pour donner une idée. On peut commencer au premier verset. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les pharisiens, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Voilà. C'est-à-dire, les pharisiens, c'était des aveugles. Ils disaient, ils parlaient, ils présentaient la parole, mais ils n'appliquaient pas scrupuleusement ce qu'ils disaient. C'est-à-dire, ils laissaient la charge de la mise en pratique au peuple, mais eux ne l'appliquaient pas. Et le verset, bon, c'est un verset que beaucoup de gens disent. Ils disent, ah, voilà, d'ailleurs, nous, on est hommes des dieux, on a dit dans la Bible, ça c'est mal comprendre les choses. On a dit dans la Bible que ce qu'on vous dit, mettez ça en pratique, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on fait. Ça c'est mal comprendre les choses, parce qu'en fait, Christ, quand il l'a dit dans ce contexte, il montrait le mauvais exemple de ces hommes. Hein, au verset 4, il dit, il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places, ces aveugles, dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués, ils aiment des honneurs, on peut dire, à être salués dans les publics, à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Ça, c'est ce que Jésus parlait, en fait, disait, parlant de ces hommes, quand il commence à les réprimander. Insensés et aveugles, c'est comme ça qu'il les appelle. Insensés et aveugles, pour vous donner une idée, reculons encore au verset 15. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, c'est-à-dire un disciple. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne. »
Deux fois plus que vous.
C'est-à-dire, vous gagnez quelqu'un à la loi, il doit maintenant obéir à la loi, il se donne à la loi parce qu'il rêve d'être pharisien. Mais arrivé dans le monde des pharisiens, vous lui faites voir aussi que c'est vrai, je suis pharisien, mais on peut aussi marcher dans cette vie en étant pharisien. En fait, vous lui montrez encore le chemin de la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. La géhenne, pour faire cette différence, vous verrez que pour ceux qui lisent la Bible, il y a des endroits où le Seigneur dit par
géhenne.
La géhenne, c'est l'enfer. Les ténèbres dit dehors fait allusion à la grande tribulation. Donc, il dit, par exemple, pour ceux qui veulent se référer, on est toujours non loin, on est dans Matthieu 22, verset 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Ici, on parlait de la fête de noces que le roi avait organisée pour son fils. Mais cet homme n'avait pas l'habit de noces. Ainsi, le roi avait constaté que comme tu n'as pas d'habit de noces, on doit te jeter dehors. Une façon de montrer que pendant la grande tribulation, ceux qui ont choisi de quitter Jérusalem pour descendre à Jéricho, eh bien, ils vont rater l'enlèvement, ils resteront pendant la grande tribulation. Or, dans ce monde où il n'y aura plus des chrétiens, ce sera un monde obscur. Ce sera vraiment, comme le Seigneur l'a appelé, un monde de ténèbres. Il dit, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Ce sera des temps difficiles. Et ici, le Seigneur parle du feu, des fils de la géhenne. Un peu pour dire qu'il y a vraiment des fils du paradis, mais il y a aussi des fils de la géhenne. C'est-à-dire, lorsqu'un homme choisit de quitter Jérusalem, c'est-à-dire la maison de paix, de quitter la présence de Dieu, se dirige avec joie, avec plaisir, sans se réprocher, il se dirige droit vers le mal, eh bien cet homme-là, il choisit d'aller à la géhenne, un fils de la géhenne. Et les pharisiens étaient comme ça, et il y a des hommes de Dieu aussi comme ça. Il est homme de Dieu, et quand on est homme de Dieu, les fidèles veulent s'approcher, ils sont curieux. C'est plus facile à enseigner par les actes que par la théorie, si je peux le dire. Les actes enseignent plus. Alors quand ils s'approchent des pharisiens, ben les pharisiens leur montrent encore la voie pour aller en enfer. C'est vraiment la raison pour laquelle Christ va dire au verset 17, « Insensé et aveugle, lequel est le plus grand ? L'or ou le temple qui sanctifie l'or ?» Pourquoi il dit ça? On est au verset 16. Malheur à vous, conducteur aveugle. Toujours la même chose. Vous pouvez être un conducteur, mais un conducteur aveugle. Malheur à vous. Pourquoi aveugle? Parce que vous avez laissé Jérusalem, c'est-à-dire la maison de paix, et vous avez choisi de descendre vers Jéricho. Nous retournons toujours là parce que nous parlons de la parabole du Samaritain. Cette parabole présente un homme qui était à Jérusalem et qui a laissé Jérusalem et qui a choisi de descendre vers Jéricho.
Et qu'est-ce qu'il est censé trouver à Jéricho? Des hommes aveugles,
voilà.
Paralysés, des mendiants, des gens dans les difficultés, pensant qu'à Jéricho, ils vont trouver des meilleures solutions. Non, à Jéricho, c'est loin de la présence de Dieu, c'est loin de la vie éternelle,
voilà.
C'est loin de la protection de Dieu, c'est loin de la source de vie, ce n'est que des sources de difficultés.
Voilà pourquoi nous parlons maintenant de l'aveugle. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Ils étaient des conducteurs, mais aveugles. N'oublions pas, Christ a même dit encore aux pharisiens, laissez-les. Il disait aux disciples, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Quand un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux
dans un trou.
Voilà, ça c'est Jésus qui a dit ça. Il le disait parce qu'il sait que dans ce monde, il y a de ces hommes qui s'appellent serviteurs de Dieu. Mais en fait, ils conduisent les autres dans un trou parce qu'eux-mêmes, ils ne voient pas. Un aveugle, c'est celui qui voit. C'est-à-dire, la chose qui nous aide à voir, c'est la parole de Dieu. La parole, la Bible dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, verset 105. Voilà. Mais quand tu n'as pas la parole, comment tu peux voir clair? Tu ne verras pas clair. Tu seras un conducteur apparent, aveugle. C'est ça l'illustrer comment les hommes voient cette parabole et cette parole comme lumière, en me référant à cette histoire de l'aveugle né de Jean chapitre 9. Lorsqu'on nous parle de cet aveugle dans Jean chapitre 9, il nous est dit que pour le guérir, Jésus-Christ avait pris de la boue. C'est-à-dire, il a pris la salive, il l'a jeté par terre, il en a fait de la boue et il l'a appliqué dans les yeux de cet homme. Ensuite, il a demandé à cet homme d'aller au réservoir de Siloé. On peut le lire, on est dans Jean chapitre 9, je prends le verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Qu'est-ce que ça peut... Il y a beaucoup de leçons à tirer. En fait, la salive, si je peux le dire, quand je vois la salive, je vois simplement la parole. Pourquoi je dis ça? Si nous parlons sans salive, sans les dents, sans la langue, on ne peut pas parler comme il se doit. On a besoin des dents pour parler. On a besoin de la langue pour parler.
On ne saura pas correctement articuler, prononcer des mots.
Les mots avec aisance. Il faut toutes ces choses, même la salive. Alors le Seigneur prend sa salive, il la jette à terre, il en fait de la boue. Un peu pour dire quoi? La parole de Dieu, c'est de la boue. La seule chose que Dieu a donnée au monde pour que nous voyons clair, c'est de la boue. C'est-à-dire la parole, c'est de la boue. Dans quel sens? Pour les hommes, la parole de Dieu, elle est vile. Pour les hommes qui méprisent la parole, elle est vile. Mais c'est cette chose-là qui est vile, qui sauve les gens.
Qui sauve les gens.
C'est la seule chose qui nous aide à voir clair et à marcher droitement pour entrer dans le royaume. Ainsi, nous verrons des prédicateurs comme Paul enseigner que la parole de Dieu, c'est une folie. Hein? Je le vois dans Corinthiens, si je ne me trompe pas. Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1er, la Bible dit ceci, je suis au verset 19. « Ainsi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde ? Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu c'est la parole, il a plu à Dieu de sauver les croyants, regardez, par la folie de la prédication. Vous voyez, la prédication c'est une folie pour les hommes. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ. Christ c'est la parole. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Vous voyez ce Christ? Il est de la boue pour les Juifs. Il est un scandale. Or, c'est cette boue. C'est cette boue que Jésus a utilisée pour ouvrir les yeux d'un aveugle. Et folie pour les païens. Comment ils nous considèrent, nous, qui nous attachons à la parole? Mais ça, ce sont des fous. Vraiment, vous restez comme ça, vous ne mangez pas pendant une journée simplement parce que vous croyez à un certain Dieu. Mais vous êtes fous. Mais oui, c'est cette folie-là qui nous aide à voir clair. C'est cette folie-là, parce que nous croyons que... Mais tous ceux qui mettent de côté cette parole, Jésus les traite des aveugles. Parce que la seule chose qui peut nous aider à voir, c'est Jésus lui-même qui est la lumière. Mais cette lumière, elle est aussi de la boue. Au verset 17 de Matthieu 23, nous retournons là, parce que nous sommes en train de voir toujours Bartimée, qui se trouve à Jéricho, Jéricho, lieu des aveugles, lieu des hommes de tout genre. On peut retrouver des serviteurs de Dieu aveugles. C'est-à-dire qui ont abandonné la loi. Insensés et aveugles. Je prends le verset 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si jure sur l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Regardez, il insiste sur ce point. Aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Jésus insiste, disant que vous êtes des aveugles. Pourquoi ils sont des aveugles? Parce qu'en fait, ils sont des hypocrites. C'est-à-dire, l'apparence présente des hommes qui aiment Dieu, mais au plus profond, ce sont des hypocrites. Regardez le verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites !» Un aveugle, c'est un hypocrite. Regardez le verset 24. « Conducteur aveugle !» Il insiste. « Qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau ?» C'est-à-dire, les petites choses, vous les laissez jeter, vous les éloignez. Mais les grandes choses, vous les avalez. Regardez, pour mieux comprendre les chameaux qu'ils avalaient, il faut reculer juste au verset 23, on a l'idée. Regardez. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, la dîme de la nette et du cumin. C'était des herbes, hein? Ils payaient les dîmes de ces herbes. Et que vous laissez ce qui est plus important, c'est-à-dire vous laissez le chameau. Ce qui est plus important dans la loi. Regardez le chameau. Vous laissez la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. D'abord, il fallait commencer par le chameau, c'est-à-dire par la justice, par la miséricorde et la fidélité, sans négliger les paiements des dîmes. Mais attention, le paiement des dîmes, à mes yeux, ce n'est qu'une mouche, mais il faut le payer. Mais l'élément le plus important, la fidélité, la justice, la miséricorde. Vous voyez les types de... Là, ce sont des hommes de Dieu. On a des hommes de Dieu qui ne payent pas la dîme. Hein? Parce que eux, ils sont des hommes de Dieu. C'est eux... Bon, il y a des gens comme ça, toute la dîme, c'est pour lui. Mais lui, il est Melchisédek.
Il n'a pas de dîme à payer à qui que ce soit.
Il est Melchisédek, lui ne paye pas de dîmes. Non, notre Melchisédek, c'est Jésus.
C'est Jésus
de Nazareth.
Tout à fait.
C'est lui qui reçoit nos dîmes. Il a droit à cela. Donc, l'aveugle Bartimée est l'image de tous ces hommes qui sont à Jéricho, qui ont choisi de laisser Jérusalem. Peut-être je voudrais toujours insister là. On peut continuer toujours dans ce texte de Matthieu 23. On est au verset
26,
mais je voudrais qu'on voie le verset 25 pour mieux comprendre. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. C'est-à-dire, Jésus nous fait voir qu'il y a des choses essentielles qui sont en fait comme des racines qui entraînent les autres. Parce qu'une racine donne des fruits. Si la racine n'est pas...
Ne vit plus, il n'y a pas de fruit qui va suivre.
Voilà, c'est la racine qui devrait d'abord être entraînée.
Combattons la racine plutôt que le fruit.
Oui.
Parce que si on tue la racine, on tue l'arbre.
Oui.
Et si on tue l'arbre, il n'y aura plus de fruit.
Voilà, la chose la plus importante, c'est ce qui est en nous. Parce que l'intérieur de la coupe, en réalité, c'est l'homme intérieur. Tel que nous sommes là, nous avons l'homme extérieur qui est ce corps, mais nous avons aussi l'homme intérieur que l'on ne voit pas. L'homme intérieur doit être entretenu. Entretenu lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, l'esprit de l'homme communique avec Dieu. La Bible dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Notre esprit doit être connecté à Dieu. Si Dieu nous a donné notre esprit, c'est aussi pratique. Parce qu'en réalité, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, Dieu écrit la parole dans notre esprit. Et c'est comme ça que Jésus-Christ, ayant en lui la parole, mais aussi étant lui-même la parole, lorsque Satan l'a attaqué, est venu le tenter, il n'a pas pu. Parce que Jésus-Christ avait en lui la parole. Et il pouvait reprendre, il est écrit. il est aussi écrit. Pourquoi ? Un exemple pour nous montrer, c'était un exemple pour nous montrer que lorsque nous écoutons la parole, eh bien la parole, elle s'écrit dans notre esprit par le Seigneur, par son esprit. Je vais lire le texte de Hébreux 10, hein, pour vous montrer, pour ceux qui ont besoin vraiment des preuves, c'est vraiment important. La Bible nous certifie toutes ces choses, nous les lisons en nous appuyant aux Écritures. Hébreux chapitre 10 au verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. C'est très important. Vous qui êtes à Jérusalem, restez à Jérusalem. Approchez-vous de Dieu. Sachez que lorsque on s'approche de Dieu, Dieu écrit dans notre esprit sa parole. Et lorsque Dieu écrit sa parole dans notre esprit, eh bien, ce sont des armes que nous nous amassons pour nous, pour notre vie étant sur terre. Je vais partager quand même cette expérience que beaucoup de chrétiens aussi ont aussi vécu. Moi, il m'est déjà arrivé plusieurs fois, je m'endors, ça je peux donner un exemple de ce genre, je m'endors, je vois quelqu'un qui vient m'attaquer pour m'agresser. Alors là, en songe, je commence à réciter un verset. J'ai récité, je crois, trois versets au même moment. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. J'ai commencé à parler. Quand je me suis réveillé, c'est vrai, j'avais vaincu dans ce songe. Mais je me suis dit, ah, j'avais donc bloqué tout ce verset en tête pendant que je dormais. Oui, c'est l'œuvre de l'esprit. Lorsque nous écoutons la parole, même en allant à l'église, mon frère. Mais Dieu écrit la parole dans l'esprit. Parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Si la nourriture physique, nous la mangeons avec la bouche, mais la nourriture du Seigneur, c'est avec nos oreilles que nous percevons. Nous faisons entrer dans l'homme intérieur la nourriture solide. L'arme qui, parce que la parole c'est une arme offensive, l'épée de l'esprit. Un autre texte pour qui nous encourage, nous qui choisissons de rester à Jérusalem, montrant que le Seigneur écrit sa parole en nous. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3, nous allons le lire, au verset 3, regardez ce que Christ dit.
2 Corinthiens
3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre écrite, une lettre de Christ, nous, mon frère, nous sommes une lettre de Jésus. C'est-à-dire, partout où nous marchons, les gens doivent lire Jésus par nous. Pourvu que nous restions où c'est ? À Jérusalem. Écrite par notre ministère. C'est-à-dire, Paul se présente, il dit, lorsque nous on prêchait, Dieu il était en train d'écrire. C'est-à-dire, le travail que nous étions en train de faire a permis que Dieu fasse de vous une lettre. Écrite par notre ministère, c'est-à-dire notre service. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. C'est-à-dire, lorsque nous étions en train de faire le service, le texte de Sinaï, la montagne de Sinaï, quand Dieu a donné à Moïse les deux tables, celui qui avait écrit, ce n'était pas Moïse, c'était Dieu. La première fois, c'est Dieu qui a écrit. Quand Moïse est descendu, il a brisé ses tables à cause de la présence du veau d'or. Mais ensuite, Dieu lui a dit de tailler, mais celui qui avait encore écrit la deuxième fois, c'était toujours Dieu. Celui qui écrit, c'est Dieu. Et maintenant, ici, il dit, par notre ministère, c'est l'Esprit du Dieu vivant qui a écrit. Non sur des tables de pierre, parce que Moïse
écrivait sur des tables.
Voilà, Dieu avait écrit au temps de Moïse sur des tables de pierre, mais aujourd'hui ce n'est plus comme ça. C'est ce que Paul nous dit. Mais sur des tables de chair.
Sur vos cœurs.
Voilà, aujourd'hui l'Esprit de Dieu écrit sur le cœur. Lorsque nous écoutons la parole, telle qu'on en parle là, telle que les bien-aimés nous suivent, l'Esprit de Dieu est en train d'écrire. Il écrit. Et on s'apercevra plus tard des effets de ce que l'Esprit est en train de faire dans nos vies. C'est très important. Parce que en fait, quand on mange, on sait pas ce qui, on ne réalise pas d'emblée ce que
comment se fait
les réactions, tous ces métabolismes, comment les, on ne sait pas les sentir,
les percevoir visiblement.
Vraiment.
Pas tous, mais il y a d'autres effets. Quand on mange tout de suite, on se sent un peu plus. Tu vois, quand on a fait un long jeûne, par exemple, lorsqu'on commence à manger. Peut-être pas tout de suite, mais au fur et à mesure, on sent qu'on est en train de récupérer, on est en train de récupérer ses forces.
Ça, c'est la grâce que Dieu fait à ceux qui restent à Jérusalem. Restons à Jérusalem, nous ne serons pas aveugles. N'allons pas à Jéricho, parce que là, nous trouverons des gens comme Bartimée. pourvu que Jésus passe par là pour sauver ces aveugles, comme il nous a sauvés nous aussi, parce qu'on était des aveugles, mais Jésus est passé et il nous a récupérés pour que nous ne soyons plus aveugles, mais que nous ayons la lumière en nous, c'est-à-dire la parole, pour voir clair. Ça, c'est très important. Et nous ne voulons pas que nous puissions être des traducteurs aveugles. Ce serait une bonne chose. Le Seigneur sera vraiment glorifié.
Mon frère, ma sœur, vous qui nous écoutez, en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, vraiment un message. Personnellement, moi-même, ça, j'ai beaucoup appris. Des aveugles, mon frère. On peut servir Christ et être un aveugle. On peut aller à l'église et être aveugle. On peut être prédicateur de l'évangile et être un aveugle.
Vraiment.
Un chef d'entreprise dit chrétien, mais aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne sait distinguer ni sa gauche ni sa droite. Il ne sait distinguer ni le jour ni la nuit. Et un aveugle qui conduit d'autres astres. Mais Dieu ne veut pas que vous continuiez à être des aveugles. Parce que Christ a la possibilité de vous guérir. On l'a vu avec le cas de Bartimée. S'il l'a fait aussi facilement pour une guérison physique, comment ça serait encore plus facile pour lui de guérir quelqu'un spirituellement qui souffre d'un aveuglement. Et pour ça, il faut reconnaître que vous êtes un aveugle. Si c'est cela votre désir, si c'est cela votre prière, vous voulez vous humilier devant Dieu, pas devant Jonathan et devant moi, mais devant le Dieu vivant pour dire « Je suis un aveugle, Père, ouvre-moi les yeux afin que je distingue les choses spirituellement. » Baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Dites « Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens à toi. J'ai entendu ton message, j'ai entendu ton appel. Je reconnais ma faute, je suis un aveugle spirituel. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me croyais plus intelligent, je me croyais plus sage, mais je me rends compte, à l'écoute de ta parole, que je suis un aveugle. Mais je ne veux pas continuer plus longtemps dans cet aveuglement. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ, lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Ouvre mes yeux spirituels, afin de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou, et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, avec Jonathan Junior Mambou, la parabole du Samaritain. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine, et que Dieu vous bénisse.
Amen.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.